Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de lire le texte en vue de la prédication au tout début de la Bible, en Genèse 2, des versets 4 à 25. Nous allons lire ensemble Genèse 2, des versets 4 à 25. Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. Et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or et d'excellente qualité, où on trouve l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui contourne tout le pays de Couch. Le nom du troisième fleuve est Idégel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront qu'une seule chair.
Merci pour vos prières, pour vos prédicateurs. Elles nous sont nécessaires par nos propres forces. Nous n'y arrivons pas. Loïc s'est arrêté juste un verset avant la fin, alors on va lire encore le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. La Bible est la parole de Dieu. Tout entière, elle est inspirée de Dieu elle seule est en position de nous parler de la création. Et puisqu'elles ont les deux le même auteur, et effectivement, Dieu, l'auteur de la création, commence son livre, la Bible, par nous révéler qu'il est lui seul le créateur du monde invisible, le ciel, et du monde visible, la terre et tout l'univers qui l'environne. Ensuite, la narration divine révélée à Moïse se concentre sur le monde visible, notre monde, et nous fait voir que Dieu dicte souverainement tout le déroulement de la création en six jours. Tout au long de cette première semaine de notre univers, les trois refrains « Dieu dit, il en fut ainsi » et « Dieu vit que cela était bon » nous apprennent que ce n'est pas par le moyen des lois naturelles qui prévalent actuellement que Dieu a créé puis façonné tout ce qui existe. Mais c'est exclusivement par sa parole, c'est-à-dire la personne de son Fils unique, qui est, selon Hébreux 1:3, le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Ainsi, ce que l'on voit, c'est-à-dire le monde que Dieu a créé, ne provient pas de ce qui est visible, puisqu'il provient de la parole invisible de Dieu. Il en résulte que la science, dont les investigations sont restreintes au domaine du visible, même qu'elle dispose d'instruments très puissants, est entièrement disqualifiée pour parler de la création. La manière dont Dieu a créé toute chose rend la création absolument hors de portée de la science. Son très vaste champ d'étude commence seulement après les six premiers jours du commencement de notre univers. Et à propos de ces jours initiaux, en plus des trois refrains qui y sont très présents, le grand principe du Créateur qui nous est révélé est celui de la séparation, de la distinction. De sorte qu'après toutes les étapes de distinction par lesquelles il a passé, notre univers est un et multiple, comme son Créateur est un et trine. Par toutes ces interventions, le Créateur a amené son œuvre de l'état brut, original, informe et vide, à l'état ordonné, habitable et habité, auquel il donne le verdict suivant, que l'on trouve dans Genèse 1, 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Le jour suivant, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait créée et il bénit et sanctifie ce septième jour dans son ensemble, de sorte que nous comprenons qu'il bénit ainsi toute l'œuvre qu'il avait faite et qui venait d'être achevée. Cette introduction résume les 34 premiers versets de l'Écriture qui précèdent directement le texte que nous allons méditer aujourd'hui. Le passage sur lequel nous nous pencherons maintenant, qui couvre les versets 4 à 25 de Genèse 2, se focalise sur l'homme, sur le genre humain, homme et femme, et nous parle de la vocation que Dieu donne souverainement à l'homme dans sa création. la vocation que Dieu donne souverainement à l'homme dans sa création. C'est là le titre de cette prédication. Ces versets ont un caractère tout à fait concret. Ils décrivent des événements localisés géographiquement et situés dans l'histoire. Portons intérêt à ces aspects historiques et géographiques dans notre premier point maintenant, qui s'intitule « Les précisions historiques et géographiques qui nous sont données ». Les précisions historiques et géographiques qui nous sont données. Tout au début, verset 4, nous trouvons la phrase « Voici les origines du ciel et de la terre ». Le mot « origine » au pluriel est la traduction de l'hébreu « toledot ». Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en français ça donne ça, « toledot », qui signifie plus exactement « les générations, les engendrements, la postérité ». Ce mot revient tout au long du livre de la Genèse, au début de chacune de ces grandes sections. Placé ici, au début de notre passage, ce mot indique le point de démarrage de toute l'humanité qui va suivre. De même que plus loin, en Genèse 6-9, il indiquera le point de redémarrage de l'humanité avec Noé et ses trois fils, Sem, Cam et Japhet. Adam, l'homme dont il est question dans notre texte biblique, et sa femme sont donc le premier couple de toute la grande famille humaine à laquelle nous appartenons aussi. Notre origine à chacun n'est pas perdue dans la nuit des temps, dans un hasard anonyme, mais se trouve dans un homme bien identifié, que Dieu forma de la poussière du sol, comme nous dit le verset 7. Cet ancrage explicite et magnifique de l'humanité est repris plusieurs fois dans l'Écriture. En voici deux exemples. En Genèse 5, les versets 1 et 2, on entend « Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. » Deuxièmement, en Luc 3, verset 38, à la fin de la généalogie de Jésus-Christ, qui parcourt le temps en remontant, nous lisons « Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Ces preuves scripturaires nous obligent à résister avec la plus grande détermination à ce mensonge véhiculé par plusieurs théologiens actuels importants du monde évangélique, consistant à nier l'historicité d'Adam sous prétexte de conformité avec ce qu'ils pensent être la vérité scientifique de l'évolution. Une autre manière de dénigrer la parole de Dieu, tout aussi dangereuse et inacceptable, est de dissocier les chapitres 1 et 2 de la Genèse, comme s'ils provenaient de deux sources différentes et indépendantes, pouvant même être contradictoires. Cependant, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ réfute catégoriquement cette critique contre l'inspiration divine des Écritures. En effet, dans sa réponse aux pharisiens concernant le divorce, Jésus affirme très clairement l'unité de ces deux chapitres, car il commence par citer le premier, en leur disant « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et il poursuit directement par ces mots « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Phrase qui provient en entier du deuxième chapitre. Cette assurance de la profonde et véritable complémentarité de Genèse 1 et de Genèse 2 nous permet alors de bien comprendre le début de notre passage jusqu'au verset 9, qui paraît un peu énigmatique au premier abord. Relisons cette portion, les versets 4 à 9 de Genèse 2. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 7 nous fixe la chronologie. Puisque c'est à ce moment que l'homme est créé, les événements décrits se déroulent pendant le sixième jour de la création. Depuis le troisième jour, quand Dieu fit que la terre entière se couvre de verdure, composée d'herbes porteuses de semences et d'arbres fruitiers porteurs de semences, les premières graines tombées des fleurs de l'herbe n'avaient pas encore eu le temps de germer, surtout en l'absence d'arrosage, et aucun des arbres n'avait eu le temps d'atteindre la taille d'un arbuste. Mais au sixième jour, cet état de fait va changer en raison de la création de l'homme. Car, spécialement pour lui, Dieu va planter un jardin avec toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger. Et dès lors, la surface du sol recevra de la pluie qui rendra fructueuse l'activité agricole prescrite pour l'homme. Quelques données géographiques sont aussi fournies, cela au verset 10 à 14. Elles nous font savoir que Éden, où Dieu planta un luxurieux jardin, se situait à proximité des fleuves Euphrate, quatrième nommé, et Tigre, troisième nommé, appelé ici Hiddekel. Les deux premiers nommés, Pishon et Guion, ne sont pas identifiés à l'heure actuelle. Quelques explications plausibles ont pu être fournies par les découvertes archéologiques, sans pourtant aboutir à des certitudes. Puisqu'ils étaient connus à l'époque de Moïse, quand il rédigea la Genèse sous l'inspiration du Saint-Esprit, De futures fouilles permettront peut-être une localisation plus précise du lieu d'habitation initial et délicieux d'Adam et Ève. Cela a bien peu d'importance pour nous croyants, car plutôt nous cherchons la cité qui est à venir, qui descendra du ciel d'auprès de Dieu. Ces précisions historiques et géographiques étant faites, nous sommes prêts maintenant à aborder le cœur de ce passage, c'est-à-dire la création du premier homme, Adam, et de son épouse, la première femme. Et c'est notre deuxième point, la création d'Adam. La création d'Adam. On va relire les versets 7 à 9 de notre passage, puis les versets 15 à 20. 7 à 9, puis 15 à 20. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Question. Qu'y a-t-il de différent entre la création des animaux de la terre selon leur espèce et la création de l'homme ? Y a-t-il vraiment une différence significative? Car des animaux terrestres, Genèse 1, 24 dit que la terre produise des êtres vivants. Et de l'homme aussi, le verset 7 qui vient d'être relu nous disait « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol ». Mais est-ce tout ce qu'il y a à remarquer? L'homme ne serait-il que le plus doué des animaux? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que dans les versets de Genèse 2, relatifs à la création de l'homme, associés aux versets de Genèse 1, Dieu lui-même montre qu'il accorde à la création de l'homme une attention toute particulière qui le distingue fondamentalement de toutes les autres créatures. Quand le psaume 8 affirme que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu, il nous enseigne que sa proximité la plus grande n'est pas du côté des animaux, mais du côté du Créateur. C'est exactement ce qui ressort des textes bibliques de Genèse 1 et Genèse 2. Quand il s'agit de trouver une aide qui sera son vis-à-vis, y a-t-il eu un animal apte à remplir les conditions? Non. Même parmi les chiens et les chats, que nous appelons nos animaux de compagnie. Pour qui Dieu a-t-il, dans un élan d'affection, planté un jardin de délices? Il est à remarquer encore que la bénédiction que Dieu prononce pour les animaux marins en Genèse 1, 22 et la bénédiction pour l'homme en Genèse 1, 28 commencent toutes les deux exactement par les mêmes mots, mais que pour l'homme, Dieu l'adresse explicitement à sa conscience, tandis qu'aux animaux, il la proclame simplement à leurs oreilles. De manière singulière, la création de l'homme suit une délibération au sein de la Trinité. Dieu dit « Faisons l'homme » Genèse 1, 26. Et après l'avoir formé de la poussière du sol, c'est par son souffle vital que Dieu le fait devenir un être vivant. C'est seulement l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. D'autre part, cela signifie que l'homme, d'une part, cela signifie que l'homme est le représentant de Dieu envers le reste de la création. C'est pourquoi quand Dieu prononce sur lui sa bénédiction, il lui dit « Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Genèse 1, 28. D'autre part, l'homme est créé à l'image de Dieu en ce qu'il reçoit des facultés qui sont caractéristiques de Dieu, comme la personnalité consciente, le langage et la capacité d'exercer l'amour. Ainsi, il a avec son Créateur une étroite et précieuse communion par le moyen du langage et fondée sur l'amour. Celui ou celle qui aime cherche bien sûr à avoir une pleine considération pour la personne aimée. De sorte que dans la relation entre la créature et le Créateur, l'amour, s'il veut être véritable, comprend toujours l'obéissance. Aussi ne faut-il pas nous étonner, au verset 16 et 17, d'entendre Dieu exprimer à Adam de quelle manière il devra lui montrer son amour. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous venons de passer en revue plusieurs indices, nous ayant démontré que l'homme est bien plus proche de son Créateur que des autres créatures du monde visible. L'un de ces indices est apparu suite au verdict de l'Éternel Dieu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et à la recherche infructueuse ensuite dans le règne animal d'une aide qui aurait pu être son vis-à-vis. Voyons maintenant justement comment Dieu va combler le manque qu'il a lui-même mis en évidence. Et c'est le troisième point, la création de la femme. La création de la femme. Et on va relire les versets 20 à 25. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. L'apôtre Paul en fait un magnifique résumé en 1 Corinthiens 11, verset 12. « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. » Paul fait très bien ressortir que, par la création de la femme, Adam reçoit une personne qui lui est égale en dignité, mais pas identique à lui, car elle lui est complémentaire. Ensemble, ils forment maintenant l'humanité. Selon Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dès lors, l'homme mâle n'est plus son vis-à-vis, et réciproquement, la femme a aussi un vis-à-vis. Vis-à-vis envers qui leur capacité d'aimer, provenant de leur ressemblance avec Dieu, pourra s'exercer et même croître de beaucoup, puisque désormais, ils pourront être féconds et se multiplier, comme Dieu d'ailleurs leur en donne l'ordre dans la bénédiction qu'il leur adresse. Dieu institue un cadre précis pour cette activité, le mariage, dans lequel un homme quitte père et mère qui l'ont engendré, s'attache à sa femme, au sens d'une union permanente et indissoluble, et ils deviennent une seule chair. Cette dernière expression, une seule chair, décrit bien sûr aussi la relation sexuelle, mais plus largement, elle rend compte de la profonde unité qui lie les conjoints du mariage monogame institué par Dieu dès le commencement et bien sûr toujours d'actualité. La joie exclamative d'Adam qui reçoit l'épouse que l'Éternel vient tout juste de créer pour lui nous fait voir combien il est ainsi comblé, il est ainsi pleinement complété. Dans le même sens, au chapitre 5, verset 2 du Cantique des Cantiques, le bien-aimé appelle sa bien-aimée ma parfaite. Marie, permettez-moi de vous exhorter à appeler de cette manière votre épouse régulièrement, pour avoir un rappel fréquent du dessein de Dieu pour votre couple et que cela interpelle vos enfants. Monique pourra vous confirmer que chez nous, ça n'a pas manqué de frapper nos filles chaque fois que je l'appelais ma parfaite. Parmi vous qui m'écoutez, je sais que pour diverses raisons, divorce, veuvage, célibat, vous n'êtes pas tous mariés. Et vous pensez peut-être, avec résignation, que même s'il n'est pas bon que vous soyez seul, c'est pourtant bien là votre situation la plus courante. Sans tomber dans l'idéalisme, rappelons-nous ensemble ici que, au milieu des ténèbres d'ici-bas dues au péché, Dieu a fait de l'Église un corps, une famille, dans laquelle nous veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. en particulier, bien-aimés frères et sœurs de notre Église, dans cette question de la solitude pesante, cherchons à faire au mieux pour l'amoindrir le plus possible. Autant en étant attentif à inviter régulièrement les personnes seules, qu'en osant humblement solliciter nos frères et sœurs lorsque notre solitude est trop lourde à supporter. Conclusion. Quelques mots de conclusion maintenant. Le texte biblique médité aujourd'hui se termine ainsi. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Genèse 2, 25. Cela confirme que le mal, source de toute honte, n'a aucune place dans leur couple, dans leur vie, sur toute la terre et dans tout le glorieux univers environnant. Œuvre splendide à laquelle, en la contemplant, son Créateur donne un verdict final. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Vous attendiez-vous à ce verdict? Mais pourquoi donc, à l'instar du bien-aimé du Cantique des Cantiques, ne déclare-t-il pas parfaite cette œuvre qu'il considère? Cette question vous a-t-elle aussi parfois préoccupé? Ce qui est parfait, c'est ce qui est complet et définitif. Je pense que Dieu, au moment de son verdict, déclare son œuvre très bonne et non parfaite, justement parce qu'elle n'est pas encore à son état définitif. Le fait, par exemple, qu'il ait donné l'ordre d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre, alors qu'elle est de taille finie, peut laisser penser à un état définitif futur différent de la situation du commencement de toute chose. Spéculation vaine, même dangereuse, me direz-vous. Mais réfléchissons encore à ceci. Ce qui n'est pas du tout spéculatif, par contre, c'est la réponse de Jésus aux Sadducéens. En Luc 20, 34 à 36, il dit « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir » et à la résurrection d'entre les morts, ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Des liens très étroits existent entre ces paroles du Fils de Dieu et Genèse 2. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au royaume définitif de Dieu ne pourront plus mourir. Certes, ils ne prendront plus ni femme ni mari. Cependant, comme nous savons par ailleurs que l'Église sera l'épouse de Christ, nous pouvons affirmer que tous les rachetés sans exception connaîtront éternellement quoi ? Les liens du mariage. Ainsi, par comparaison entre le commencement et l'état définitif, nous pouvons nous émerveiller de ce que Dieu accorde à tous ceux qui sont en Christ par la foi, une intimité avec lui comparable à celle des époux, mais encore plus grande et belle, et un état de vie éternelle où la mort ne sera plus. Apocalypse 21, verset 4. Terminons par la louange à Dieu de Romains 11, 36. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.